Radio Star, la web radio
de Saint-Amand.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Star.
Bonjour à tous chers auditeurs, nous voici de retour pour une nouvelle émission que je co-présenterai aujourd'hui avec Robin.
Bonjour Maë. Alors que vous aimiez le sport, la musique ou encore l'actualité, il y en aura vraiment pour tous les goûts dans cette troisième émission de l'année scolaire. Voici le sommaire.
Pour commencer, dans l'actu Saint-Amand, nous reviendrons sur le très beau séjour au ski des 6e à Gourette.
Nous parlerons également de l'échange entre notre établissement et un collège de Kansas City aux États-Unis qui aura lieu au mois d'avril et au mois de mai.
Nous vous ferons découvrir le Nid Basque, un institut médico-éducatif situé à Biarritz qui fait partie des deux associations bénéficiaires de l'opération Pâte Pomme organisée dans le cadre du carême à Saint-Amand.
Enfin, alors que les élèves de 4e sont tout juste partis en stage, nous reviendrons sur ce moment important et incontournable du parcours d'un collégien.
Place ensuite à l'actu mondial avec un événement politique national qui a réservé quelques surprises cette année au Pays Basque, les élections municipales.
Puis direction Porto Rico, lieu de naissance du chanteur Bad Bunny, qui a beaucoup évoqué son île et ses problèmes lors de son concert à l'occasion de la finale du Super Bowl aux États-Unis.
Et puisqu'on parle de Bad Bunny, il sera aussi le sujet principal de notre rubrique Actu Culture.
Si vous cherchez des ressources vidéo pour apprendre l'espagnol en s'amusant, dans la Minute Espagnole, Pablo vous conseillera sur les meilleurs programmes à regarder pour progresser.
Dans l'actu sport, retour sur deux grands événements sportifs de ce début d'année 2026. Les JO d'hiver à Milan Cortina et le tournoi Destination Rugby.
Dans notre rubrique Un pays, une tradition, nous vous ferons découvrir des traditions culinaires lointaines et un peu surprenantes.
Enfin, pour terminer, à l'occasion des fêtes de Pâques, nos cuisinières en herbe vous proposent de petits biscuits en forme d'œuf dans la cuisine de Radio Star.
Avec tout ça, pas une minute à perdre, c'est parti!
L'actu Saint-Amand.
Cette année encore, les 6e ont eu la chance de partir une semaine au ski. Robin, tu étais de la partie. Est-ce que tu peux nous raconter ton séjour ? Vous êtes parti quand ?
Avec plaisir. Nous sommes partis en deux groupes. Certains sont partis du lundi au mercredi, les autres du mercredi au vendredi, direction Gourette. Après 2h14 de bus, nous sommes arrivés au Cardette, le centre de vacances qui nous accueillait pour la semaine.
Et qu'est-ce que vous avez fait en arrivant ?
Nous avons déposé les valises, puis on a mangé un repas trop bon. Ensuite, on est allé skier.
Vous étiez regroupés par classe ?
Non, il y avait trois groupes. Les débutants, les débrouillés et les confirmés. Chacun des groupes avait un moniteur ESF.
Après le premier jour de ski, qu'avez-vous fait ?
On s'est retrouvés pour faire des activités avec les animateurs du centre. Le premier jour, nous avons fait de la lecture de paysages.
Et le soir, comment étiez-vous logé ?
Moi, j'étais dans une chambre de 8, mais il y avait aussi des chambres de 4. Le soir, on est allé à la douche avant de manger. Ensuite, pour la veillée, on a fait un grand loup-garou.
Et le deuxième jour ?
Le lendemain, cours de ski matin et après-midi. Comme activité, nous avons fait des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige et des igloos. C'était génial. Et le soir, la veillée, c'était une soirée boom. C'était trop bien. Il y avait de la grenadine, de la menthe à boire et on a dansé.
Les derniers jours, qu'avez-vous fait ?
Le matin, on est allé skier, puis les 6A et ceux de Saint-Amand-Monteau sont arrivés. L'après-midi, on est retourné skier une dernière fois, puis on est rentré à Bayonne à 19h30. Les autres sont rentrés le vendredi soir.
Bien fatigué, j'imagine, avec ce beau programme. On est également allé demander à quelques élèves de 6e quels souvenirs ils gardent de Gourette et quelques anecdotes croustillantes sur cette belle semaine.
Comment as-tu trouvé le séjour de ski à Gourette ?
Alors j'ai bien aimé le séjour. Pour la première fois de toute ma vie, c'était incroyable. Je pense que je vais même recommencer l'année prochaine.
J'ai trouvé ça incroyable. On a passé des bons moments, des bons souvenirs gravés dans la mémoire.
Quel a été ton moment préféré au ski ?
Moi, c'était quand on est allé au snowpark avec Axel. On s'est super amusé et on a fait beaucoup de bosses.
Moi, j'ai bien aimé quand on était sur une piste noire. Il y a Adrien qui est tombé et en fait, il a fait comme une boule de neige. Après, il n'y a pas eu de blessé, mais c'était vraiment marrant.
As-tu une anecdote sur Gourette ?
C'est quand je me suis pris le lit sur la tête. En fait, la vraie histoire, c'est que je poussais avec mes jambes. Moi, je pensais qu'au pire, le lit retomberait directement. Sauf qu'en fait, il a basculé. Je me suis pris en plein dans le nez. Du coup voilà, sauf qu'après je suis même pas restée 2 secondes dessous, il y a mes amis qui sont venus m'aider heureusement.
C'était dans le groupe des confirmés avec Titouan. Adrien a dévalé la pente Il a percuté Pauline, Pauline a perdu un ski, a continué à dévaler la pente. Moi, entre-temps, je suis tombée, j'ai failli tomber dans le ravin. Et au final, le moniteur, il a porté Pauline pour finir la piste.
Depuis quelques années maintenant, comme vous le savez peut-être, notre collège est jumelé avec une école aux États-Unis, à Kansas City. Chaque année, c'est l'occasion pour certains élèves de partir ou bien d'accueillir un correspondant américain à Bayonne. Maëlle et Loaison, vous avez toutes les deux la chance de participer à ce bel échange cette année. Vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation ? Loaison, tu es partie des quatrièmes qui ont la chance de partir aux États-Unis. Quand se déroule le voyage ?
Eh bien, on part de Bayonne le 1er avril vers 5h du matin et on décolle à 7h15. On rentrera le 15 avril à 14h, soit 14 jours de voyage. Il y a 6 heures de décalage horaire.
Et Maëlle, toi, tu vas accueillir une élève américaine très bientôt. Ce sera quand ?
Les élèves américains viennent du 12 au 26 mai prochain.
Et en attendant de vous voir en vrai, vous avez déjà pu faire connaissance ?
Nous nous parlons par mail ou nous envoyons des lettres pour mieux nous connaître.
Moi, j'ai déjà accueilli ma correspondante l'année dernière chez moi. Donc, on se connaît et on discute par vidéo et par message.
Génial ! Et qu'allez-vous faire à Kansas City, Loaison ?
Eh bien, le matin, nous allons suivre leur cours au collège et nous mangerons avec eux le midi. L'après-midi, nous irons visiter les environs. Puis nous reviendrons au collège pour repartir avec eux. Ensuite, tout dépend s'ils ont des activités l'après-midi ou s'ils ont prévu des activités en famille. Bref, on les suivra.
Ce sont donc des collégiens comme nous ?
Oui, ceux qu'on a accueillis sont en 5e comme nous et ils ont le même âge. Ils seront 18 en tout.
L'Académie Lafayette est un collège, un lycée et une école internationale. Apparemment, les élèves portent un uniforme.
Ils apprennent plusieurs langues, comme le français, le chinois et l'espagnol. Mais leurs cours sont presque tous en français, donc ils ont un bon niveau.
Et comment va s'organiser le séjour des correspondants à Bayonne ?
Ils arrivent le mardi soir et ils partageront nos cours le matin. Ils seront 6 par classe. Les après-midi, ils iront visiter la ville et le Pays Basque.
Un bon programme ! On sera ravis de les accueillir au collège. En attendant, très bon séjour, Loaison, tu nous raconteras.
Avec plaisir.
Bon voyage, Loaison ! Le mois de mars est également l'époque du carême et pour notre collège, de l'opération Pas de Pomme qui permet chaque année d'apporter une aide financière à deux associations locales.
Les quatre vendredis successifs du carême, les élèves volontaires peuvent prendre un simple repas constitué de pâtes et d'une pomme à la place d'un repas normal afin que l'argent économisé soit reversé à ces associations.
Cette année, c'est l'association Horeri et le Nid Basque qui seront les bénéficiaires. Horeri, que nous avons déjà présenté dans cette émission, est l'association qui vient en aide aux enfants malades de l'hôpital de Bayonne.
Le Nid Basque est un institut médico-éducatif situé à Biarritz. Afin d'en savoir plus sur l'association et ses missions, Pablo est allé interroger l'une de ses bénévoles venue à la rencontre des élèves de Saint-Amand. On les écoute.
Qu'est-ce qu'est l'association du Nid Basque et quelle est sa mission principale ?
Alors au Nid Basque, on accompagne des jeunes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire que leur cerveau ne fonctionne pas toujours comme ce qu'on attend à l'école ou dans la vie quotidienne. Par exemple, certains ils ont beaucoup de mal avec du bruit, avec l'attention, leurs émotions, la communication ou les apprentissages. Et donc parfois, des choses qui paraissent simples pour eux demandent en fait chez eux énormément d'efforts.
Et comment est née l'association ?
L'association elle a plus de 70 ans. Elle a été créée par des sœurs en 1954. Et au fur et à mesure, elle s'est développée et maintenant elle s'est professionnalisée pour accueillir donc les jeunes avec des troubles du neurodéveloppement.
Quels sont les profils des personnes accueillies au Nid Basque ?
On a plusieurs types de profils. On a des jeunes qui ont des troubles dyslexiques, donc tout ce qui est dysorthographie, dyspraxie. On a des jeunes qui ont des troubles du développement intellectuel, des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et des troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est un peu des termes techniques, mais voilà, ce sont les jeunes qu'on accueille.
Combien de temps les jeunes accueillis restent au Nid Basque en moyenne ?
Souvent on les accueille à partir de 11 ou 12 ans, et ils restent jusqu'à la fin de leur scolarité, donc jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Et après, soit ils peuvent faire des formations, ou ils sont pris en charge par d'autres organismes.
Merci pour cette interview, Pablo. Le Nid Basque comme Horeri sont des associations qui méritent vraiment d'être soutenues. Merci à tous les volontaires qui participent à l'opération Pas de Pomme cette année.
Dernière actualité, concernant le collège. Les élèves de 4e partent en stage d'observation juste avant les vacances de Pâques. L'occasion pour nous d'essayer d'en savoir plus sur la façon dont les élèves de Saint-Amand trouvent un stage et l'expérience qu'ils en retirent.
Pablo et Martin, vous avez lancé un sondage sur Pronote auprès des élèves de 4e et de 3e. Alors, que disent les résultats ?
44% des élèves interrogés ont répondu. donc on ne peut pas dire que les réponses sont totalement représentatives, mais elles donnent déjà quelques informations intéressantes.
Nous avons tout d'abord voulu savoir comment les élèves trouvent leur stage et s'ils rencontrent des difficultés. Les résultats obtenus nous montrent que la grande majorité n'a pas eu trop de problèmes, 79%. 21% disent tout de même avoir eu des difficultés.
30% ont trouvé un stage grâce à leur famille, 46% grâce au contact de leur famille ou de leurs proches. Ils sont peu nombreux à trouver un stage par eux-mêmes en contactant directement une entreprise ou un commerce. Cela montre bien que c'est surtout par le réseau familial qu'on trouve un stage au collège.
Concernant les domaines d'activité dans lesquels les élèves font des stages, 33% l'ont effectué dans le secteur commercial, 22% dans le secteur médical, 12% dans le secteur judiciaire, 7% chez les vétérinaires, 4% dans le divertissement. Cela reflète aussi dans quel secteur travaillent beaucoup de parents à Saint-Amand.
Autre information intéressante, les élèves réalisent leur stage en très grande majorité sur le BAB à 63%. Mais certains vont un peu plus loin, 20% dans le département, 9% dans la région, 7% dans la région et cas exceptionnel, 1% à l'étranger.
Enfin, nous avons voulu savoir si le stage réalisé au collège avait une influence sur les choix d'orientation des élèves. À cette question, seuls 31% des élèves de 3e qui ont répondu déclarent que ce stage a confirmé leur choix d'orientation. Pour 69%, le stage n'est pas vraiment décisif pour leur orientation future.
Merci beaucoup les garçons, c'était très instructif. Pour moi, ce sera l'année prochaine, mais il va falloir que je commence à y penser. Allez, on passe à l'actu mondiale.
L'actu mondiale.
Comme vous le savez sûrement, les élections municipales viennent d'avoir lieu partout en France et de nombreuses villes ont désormais de nouveaux maires. Ou bien, on choisit de garder celui qu'ils dirigeaient déjà.
Pour en parler, nous accueillons maintenant Louise. Alors Louise, que s'est-il passé chez nous au Pays Basque ? Est-ce qu'il y a eu de gros changements ?
Globalement, beaucoup de maires ont été réélus comme à Bayonne, à Anglet, à Saint-Jean-de-Luz ou Andeuil pour la Côte Basque, mais aussi à Mauléon ou Brixous. Parmi les rebondissements, le plus médiatique est sans aucun doute l'élection de Serge Blanco à Biarritz. L'ancien champion de rugby et star du Biarritz Olympique a battu Mader Arostegui au deuxième tour. Il y a aussi du changement à beaucoup, Urune, Arbonne ou encore Asquin.
Eh bien, il y aura eu du suspense jusqu'au bout et des rebondissements, dis donc.
Mais Louise, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent ces élections ? On vote pour des listes et pas pour un seul candidat, c'est ça ?
Effectivement. Tout d'abord, tous les habitants de plus de 18 ans et inscrits sur les listes électorales peuvent voter pour une liste candidate dans une commune. Ensuite, les conseillers municipaux qui ont été élus sur des différentes listes élisent le maire. En général, c'est le numéro 1 de la liste gagnante.
Et combien de temps un maire reste au pouvoir ?
Le mandat de maire dure 6 ans, mais il est renouvelable. Le record de durée d'un maire sur une même commune est détenu par André Cornu, qui est resté maire 72 ans sans jamais être interrompu.
Eh bien, c'est impressionnant. Et quels sont concrètement les principales missions d'un maire ?
Eh bien, un maire remplit beaucoup de fonctions essentielles. Tout d'abord, il est le représentant de l'État dans la ville et fait donc appliquer les lois. Il organise les élections et marie les habitants dans sa commune. Mais il gère également les écoles primaires, les services administratifs de la commune et les infrastructures sportives et culturelles. Enfin, il est le chef de la police municipale. Bref, il garantit le cadre de vie des citoyens.
Ah oui, c'est très important. Il gère vraiment notre vie quotidienne. Bon courage à tous les maires de France qui commencent leur mandat. C'est un sacré travail.
Partons maintenant direction les Caraïbes avec Marion et Pablo pour découvrir Porto Rico, l'île du célèbre chanteur Bad Bunny. Alors Marion, déjà, pourrais-tu situer Porto Rico ?
Oui, Porto Rico se situe dans la mer des Caraïbes. Elle fait partie des Grandes Antilles. Sa capitale est San Juan.
Et au niveau géographique, le centre de l'île est montagneux, et tandis que les côtes sont plus plates.
Et le climat ?
Il fait chaud toute l'année, car le climat est tropical. Il y a des saisons plus humides et parfois des ouragans.
Ah oui, comme celui qui a presque détruit toute l'île en 2017, l'ouragan Maria.
C'est exact.
Autrefois, c'était une colonie espagnole, c'est bien ça ?
Oui, les premiers habitants de l'île étaient en effet des Indiens Taïnos. Christophe Colomb est arrivé sur l'île avec les Espagnols en 1493.
Ensuite, en 1898, après la guerre hispano-américaine, l'Espagne a finalement cédé Porto Rico aux États-Unis.
En 1917, les Portoricains sont devenus des citoyens américains.
Et en 1951, l'île est devenue un État libre associé aux États-Unis.
C'est un pays donc ?
Non, c'est un État libre associé aux États-Unis. Ça veut dire que Porto Rico est un gouvernement que les Portoricains sont considérés comme des citoyens américains, mais qu'ils ne peuvent pas voter aux élections nationales américaines, par exemple.
Et la population, elle a des particularités ?
La population de Porto Rico est issue d'un mélange d'influences dues à l'histoire de l'île, espagnole, africaine et amérindienne.
Du coup, ils parlent quelle langue à Porto Rico ?
La langue principale est l'espagnol, mais beaucoup d'habitants parlent aussi anglais.
On parle aussi souvent de la culture portoricaine.
Oui, la culture locale est très riche. Musique, danse, fêtes traditionnelles. On y retrouve une influence espagnole et des Caraïbes.
Est-ce que Porto Rico est une île touristique ?
Oui, les plages sont magnifiques et attirent beaucoup de touristes. Le tourisme est une activité très importante pour l'économie.
Mais il y a aussi des problèmes économiques et politiques à Porto Rico.
En effet, l'économie repose sur l'industrie, le service et le commerce avec les États-Unis. On y fabrique des produits chimiques, des médicaments, de l'électronique et des vêtements.
Et l'agriculture, très importante, produit notamment de la canne à sucre, du café et des fruits tropicaux.
Mais la population reste très pauvre et les Portoricains ont beaucoup dû partir aux États-Unis pour trouver un travail.
Merci les garçons, je crois savoir que le chanteur Bad Bunny en parle dans ses chansons, comme nous allons le voir tout de suite avec l'agriculture.
L'actu culture.
Premier, on reste à Porto Rico pour vous parler musique cette fois.
Oui, avec Camille et Elliot qui vont nous faire mieux découvrir le chanteur Bad Bunny, qui connaît actuellement un succès phénoménal dans le monde entier.
Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui pour son spectacle à la mi-temps du Super Bowl. Un show qui n'a pas trop plu à Donald Trump et ses supporters.
Alors pour commencer, Camille, Bad Bunny est un nom de scène, mais quel est son vrai nom et pourquoi Bad Bunny ?
Son vrai nom est Benito Antonio Martinez Ocasio. Son nom de scène Bad Bunny vient d'une photo prise à l'école lors d'un spectacle où il devait porter un costume de lapin et il avait l'air très mécontent.
Où est-il né et où a-t-il grandi ?
Il est né le 10 mars 1994 à Bayamón, à Puerto Rico. Il a grandi dans une famille modeste. Son père est chauffeur routier et sa mère est institutrice.
Quand il était enfant, il allait chaque semaine à l'église avec sa mère et chantait dans la chorale. C'est là qu'il a découvert sa passion pour la musique.
Cela fait un bon moment que Bad Bunny a commencé sa carrière. Mais quand est-ce qu'il a eu son premier grand succès et quand est-il vraiment devenu une star ?
Bad Bunny s'est fait connaître en 2016 grâce à la chanson Diles, mais il est devenu vraiment populaire avec son titre Soy Peor, ensuite grâce notamment à ses collaborations avec des artistes comme Farruko, Karol G, Ozuna, J Balvin ou Drake. Sa carrière est devenue mondiale. En 2020, il est devenu l'artiste non anglophone le plus écouté sur Spotify.
Et il a renouvelé cet exploit en 2021, 2022 et 2025.
Le chanteur a récemment obtenu de nombreuses récompenses pour son dernier album, non ? Oui, avec l'album Debitar Mas Fotos, sorti en 2026, il a notamment remporté le prix de l'album de l'année lors de la 68e cérémonie des Grammy Awards, une première pour un album entièrement en langue espagnole.
À travers ses chansons, Bad Bunny s'est aussi pas mal engagé, il me semble. Quel message veut-il faire passer ?
En effet, malgré sa célébrité internationale, Bad Bunny reste très attaché à Puerto Rico, qu'il met souvent en avant dans ses chansons et dans ses projets. Il défend l'identité et la fierté portoricaine en parlant ouvertement des conditions économiques de Puerto Rico, de son statut qu'il dénonce comme colonial et de ses difficultés structurelles comme les pannes d'électricité répétées que subit l'île depuis l'ouragan Maria.
Bad Bunny ne chante qu'en espagnol et il n'hésite pas non plus à critiquer la politique actuelle des États-Unis. Il est pro-migrant, pro-LGBT. Bref, un symbole de résistance face au courant MAGA de Donald Trump.
En quoi le succès de Bad Bunny est-il remarquable ? Bad Bunny est un artiste polyvalent. Il s'illustre également comme acteur au cinéma et même comme catcheur. Son image audacieuse, son engagement pour la culture latino et sa liberté artistique font de lui une figure artistique très influente dans le monde entier.
Merci Camille et Elliot pour ce très beau portrait. Moi, ça m'a donné envie de mieux découvrir Bad Bunny.
Moi aussi, mais il va falloir patienter un peu. Radio Star n'a pas les droits de diffusion.
Ah, dommage. Bon, et maintenant, si on apprenait l'espagnol en s'amusant, comme on va le découvrir dans la minute espagnole.
La minute espagnole.
Hola Pablo, toi qui as grandi en regardant la télévision espagnole, tu as quelques conseils à nous donner pour apprendre l'espagnol tout en se divertissant ?
Muy bien, alors on t'écoute. Quel programme peut-on regarder pour progresser en espagnol quand on est au collège ?
Hola a todos. Como ya sabéis, para aprender una lengua hay que ejercerla muy regularmente, paso a paso. Así pues, ¿qué mejor manera de aprender español haciendo una cosa a la cual, para la mayoría, estáis acostumbrados, es decir, mirar dibujos animados y películas?
¿Y cómo se puede mejorar español de esta manera?
Por ello, hay que seguir varias etapas dependiendo del nivel. Lo esencial y lo más lógico es mirar programas españoles para empaparse de la lengua. Para los principiantes, que no hablan mucho, hay que mirar dibujos animados simples y concretos con diálogos simples y vocabulario fácil. También hay que mirarlos en español y con subtítulos españoles de preferencia. Lo principal es entender la historia y lo que está pasando sin forzosamente entenderlo todo. Se puede pausar y repetir algunas secuencias, y hasta intentar pronunciar algunas palabras o frases para memorizarlas. Por ejemplo, podéis mirar Peppa Pig en español, con subtítulos españoles, pero también podéis mirar Pocoyo, que es un dibujo animado español.
¿Y cuál es tu top 5 de los dibujos animados para aprender fácilmente?
Aquí tenéis mi top 5. En primero, Dora la Exploradora. En segundo, Peppa Pig. En tercero, Pocoyo. En cuarto, La Patrulla Canina. Y en quinto, Bob Esponja. Y aquí tenéis mi top 5 de los dibujos animados un poco más difíciles. En primero, Gravity Falls. En segundo, Doraemon. En tercero, El Asombroso Mundo de Gumball. En cuarto, Teen Titans Go. Y en quinto, los Looney Tunes Cartoons.
¿Puedes también recomendarnos algunas películas?
Sí, para los que se sientan más avanzados, podéis intentar mirar películas en español. Lo más fácil es mirar películas que ya habéis visto en francés para ya tener la historia en mente. Podéis mirar Coco y Encanto, por ejemplo, que son películas con un español latinoamericano para oír todo tipo de lengua española. Pues ya lo tenéis todo. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Pablo.
Hasta luego.
Y maintenant, on passe à l'actu sport.
L'actu sport.
Deux gros événements sportifs mondiaux de ce début d'année dans l'actu sport. Les Jeux Olympiques d'hiver et le tournoi Destination.
Commençons avec le tournoi Destination qui s'est achevé le 14 mars. Cette année encore, il y a eu beaucoup de suspense jusqu'au dernier match. Alors finalement, Elliot, qui a gagné le tournoi?
C'est la France qui a gagné le tournoi. Elle a gagné 4 de ses 5 matchs face à l'Irlande, au Pays de Galles, à l'Italie et enfin à l'Angleterre. Mais elle a perdu face à l'Écosse sur le score de 50-40.
Et qui a été le meilleur joueur de ce tournoi 2026?
C'est Louis Bielle-Biarrey, comme l'an passé. Au terme d'un quadruplé le samedi 14 mars face à l'Angleterre, le jeune joueur français a marqué 9 essais dans le tournoi.
Quelle équipe s'est révélée pendant le tournoi?
Cette année, c'est l'Italie qui a impressionné, en gagnant 2 matchs face à l'Écosse et face au Pays de Galles.
Et quelle nation a été la plus décevante?
C'est le Pays de Galles. Les Gallois n'ont gagné aucun match du tournoi comme l'an dernier.
Tu as encore une petite info sur ce tournoi 2026?
Oui, félicitations aux joueurs français en U20 qui, eux, ont réalisé le Grand Chelem, une première pour les Bleus depuis 2014.
L'autre grand événement sportif de ce début d'année, c'était bien sûr les JO qui ont eu lieu en Europe cette fois-ci. Alors Martin, où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver exactement?
Les Jeux ont eu lieu en Italie, plus précisément dans les villes de Milan et de Cortina du 6 au 22 février. Des milliers d'athlètes du monde entier sont venus participer à la compétition dans toutes les disciplines des sports de glace et de neige.
Et combien de médailles la France a-t-elle gagné?
La France a réalisé des Jeux historiques en remportant 23 médailles dont 8 en or, ce qui est son meilleur résultat depuis la création des Jeux Olympiques d'hiver. Le biathlon a été le sport le plus médaillé pour la France.
Y a-t-il eu une journée particulièrement marquante pour la délégation française?
Sans aucun doute, la journée du 11 février a été incroyable pour les Français, avec 4 médailles remportées en une seule journée, dont 2 titres olympiques.
Est-ce que les Jeux Olympiques ont été bien suivis par le public?
Énormément, ils ont été très suivis à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux, notamment sur France TV qui a été leader en soirée 10 soirs sur 17. Les performances des Français, surtout en biathlon, ont beaucoup fait parler dans les médias.
Il paraît que Quentin Fillon, maillé, a battu un record important. Lequel?
Il est devenu l'athlète français le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques, avec 9 médailles.
Et Johannes Klæbo a réalisé un grand exploit, tu peux nous en dire plus?
En effet, le Norvégien Johannes Klæbo a remporté tellement de médailles en ski de fond que s'il avait été un pays à lui seul, il aurait battu la Suisse avec 6 médailles d'or et aurait été 9e au classement des médailles.
Eh bien, ces JO ont donc été globalement une réussite.
Oui, et ces performances donnent beaucoup d'espoir aux Français pour les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu en 2030 dans les Alpes françaises.
Un pays, une tradition.
de notre belle rubrique, nous allons maintenant parler cuisine et gastronomie avec Louison.
Oui, Louison, tu nous emmènes aujourd'hui à la découverte de recettes de cuisine du monde un peu spéciales ou surprenantes, voire carrément bizarres. Et on commence sur un plat venu de Namibie.
Effectivement, c'est un plat traditionnel de là-bas, l'anus de phacochère. Il paraît même qu'il s'agit d'un plat très réputé en Namibie et que l'anus est la partie la plus tendre de cette bête. Sa cuisson se fait sur le grill et la viande se déguste al dente.
Ah oui, on en apprend tous les jours. On dit qu'il faut goûter de tout, mais bon, tu n'aurais rien d'autre à me proposer ?
Bien sûr, au Cambodge, un plat très connu est la tarentule frite dans l'huile. Apparemment, le goût serait un mélange entre le poulet et la morue. Et ne vous inquiétez pas, on lui enlève ses crochets avec le venin.
Bon, je passe. J'ai trop peur des araignées, même frites.
Une dernière proposition ? Saviez-vous que le jus d'œil de mouton est considéré comme une boisson symbole de force et de courage en Mongolie ? On l'offre généralement aux hôtes en signe de respect et d'hospitalité. Habituellement, on fait bouillir l'œil de mouton dans de l'eau jusqu'à ce qu'il soit tendre, puis on le presse pour en extraire le jus.
Merci beaucoup, Louison. On attend avec impatience que tu reviennes nous faire découvrir d'autres recettes surprenantes. Ça nous a donné faim. Ça tombe bien, c'est l'heure de la cuisine de Radio Star.
La cuisine de Radio Star.
Bientôt Pâques et ses chocolats.
Et pour l'occasion, nos cuisinières de Radio Star vont bien nous pondre une bonne petite recette, non ?
Jacqueline, mais mes poules ne pondent plus d'œufs. Comment je vais faire pour mes gâteaux de Pâques ?
Ne t'inquiète pas, j'ai la recette qu'il te faut. D'abord, on va commencer par cuisiner des sablés. Pour ça, il te faut d'abord préchauffer ton four à 180 degrés.
Et pour les ingrédients ?
Tu as besoin de 110 g de sucre en poudre,
100 g de beurre mou,
un œuf et
250 g de farine de blé.
Ensuite, tu pétris la pâte, puis tu la tiens entre deux feuilles de papier sulfurisé jusqu'à ce qu'elle devienne fine, afin que le sablé ne soit pas trop épais.
Une fois sur deux, fais un biscuit en forme d'œuf normal.
Et l'autre, avec un petit trou au milieu, en forme de cercle, à l'aide d'un emporte-pièce.
Mettre le tout au four pendant 12 minutes.
Attendre ensuite que les biscuits soient complètement froids, puis coller les deux différentes formes de biscuits avec
beaucoup de confiture de mangue ou d'abricot.
Pour finir, saupoudrer les sablés de sucre en poudre. Et voici des petits biscuits de Pâques en forme d'œuf.
Ok, merci les filles. Ça y est, je meurs de faim.
Moi aussi. Il est grand temps de vous dire au revoir et merci pour votre écoute et votre fidélité à Radio Star.
On vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission très bientôt. Au revoir.
C'était l'émission Radio Star. À bientôt.